auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, nous entamons aujourd'hui une nouvelle émission avec une personne qui est bien connue auprès de nos auditeurs, que ce soit à Châlons-Champagne ou à Marseille. C'est Sandra Gadret, qui est artiste peintre. C'est son métier, elle a toujours fait ça. Et elle a une peinture qui évolue. Alors, au fur et à mesure que sa peinture évolue, les auditeurs qui sont fidèles à l'émission Mets de Résistance peuvent aller regarder ça sur le podcast, sur les podcasts qui sont sur le site de Radio Galère ou sur celui de Radio Mono. On suit régulièrement l'évolution de la peinture de Sandra, qui, un peu comme Picasso, mais elle ne sera pas contente que je fasse la comparaison parce que c'est quelqu'un de très humble, a ses périodes. Voilà. En ce moment, c'est la période Namibie, parce que Sandra a fait un voyage qui l'a beaucoup marqué il n'y a pas très longtemps, en Namibie. C'est un voyage qui regroupait principalement des artistes, et Sandra y a appris à faire ce qu'on appelle un carnet de voyage. Donc Sandra, si tu veux bien qu'on en discute. Également, nous avons avec nous aujourd'hui une journaliste, Magali, qui est la journaliste de l'Union locale, c'est-à-dire le journal local de Châlons-Champagne, et qui est venue faire un article. Donc elle va, elle aussi, poser des questions. Voilà, donc on va commencer par Sandra. Sandra, bonjour.
Bonjour Nora.
Alors, tu as l'habitude de discuter avec nous sur le plateau de Mets de Résistance à Radio Galère ou Radio Mono. Donc tu sais très bien comment ça se passe. Ce sont des émissions un peu au fil de l'eau, des émissions de comptoir, on va dire, où on discute de la pluie et du beau temps. Et à l'occasion, on glisse de temps en temps des choses intéressantes, comme par exemple ton action en peinture. Et là, c'est encore plus intéressant parce que tu vas nous parler de ton voyage en Namibie.
Oui, donc là, je vais parler uniquement du beau temps, parce que là-bas, c'est le beau temps. Il n'y a pas de pluie, ou presque pas.
Il pleut jamais.
Si, il pleut, je plaisante, mais beaucoup moins que chez nous.
D'accord. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un hiver en Namibie?
Oui, il y a un hiver, mais c'est justement à l'opposé du nôtre. Donc nous, là, on est en pleine saison d'été en Namibie. Et quand chez nous, voilà, il fait un peu moins 5, ou moins 10 même des fois en ce moment. Donc voilà.
D'accord.
Donc l'été se présentait quand j'y suis allée au mois de novembre-décembre pour la fin d'année dernière. Donc je suis revenue avec plein de soleil. Et plein de soleil donc dans ma palette, dans mon cœur. Et puis ce qui m'anime aujourd'hui voilà, pour présenter au public chalonnais, essentiellement pour, dans un premier temps, à l'Office de tourisme de Châlons-Champagne.
D'accord. Donc cette exposition va avoir lieu à l'Office de tourisme à quelle date ?
Alors, elle va avoir lieu du 5 au 25 février aux horaires de l'Office de tourisme qui est 9h30, 12h, 13h30, 18h. Je serai présente sur place les samedis après-midi.
D'accord, super. Donc, les gens vont pouvoir discuter avec toi. Est-ce qu'il va y avoir un vernissage ?
Oui, alors il y aura un vernissage le 9 février, donc à partir de 18h30, où là je serai bien sûr présente et je présenterai mon travail surtout. Mon travail, alors j'aime pas le mot travail parce que c'est pas travail égal labeur et c'est pas du tout une labeur pour moi ni une contrainte. Surtout quand on l'associe au voyage, qui est une deuxième passion, j'en ai plein d'autres des passions, mais celle-ci est grande et prend de la place. Donc j'ai associé mon art au voyage et c'est juste formidable de pouvoir aujourd'hui pouvoir la partager avec le public. Et Marseillais, pardon.
Oui, Marseillais. Merci Sandra, parce que de toute façon, je le dis à nos auditeurs de Marseille qui pourront peut-être pas être là le jour du vernissage, le 9 février, qui ne pourront peut-être même pas aller se déplacer pour aller à l'Office du tourisme de Châlons. La peinture, c'est universel, donc ça concerne aussi les Marseillais. Vous pouvez très bien aller voir sur le site de Sandra Gadret ou son Facebook, où toutes ses œuvres sont exposées, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sandragadret.com, où vous pourrez trouver l'ensemble de mon travail et tout ce que je peux proposer au niveau atelier, que ce soit enfants, personnes âgées ou tout simplement monsieur, madame, tout le monde. Voilà.
Et en ce qui concerne nos amis chalonnais, eh bien vous n'avez qu'à sortir un peu de chez vous et aller à l'Office du tourisme entre le 9 et le 25 février.
5 au 25.
Entre le 5 et le 25 février, pardon, le vernissage c'est le 9, mais c'est pas le premier jour. Est-ce que vous voulez, mademoiselle, pardon, je me rappelle
Magali.
Pas de ton, Magali, pardon, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête, je m'étais persuadée que c'était Séverine. Des fois, faut pas chercher. Magali, est-ce que tu veux poser une question? Alors, je rappelle que Magali est présente parce que elle est journaliste et qu'elle fait un article pour le journal L'Union.
Oui, bonjour à tous. Donc, bonjour Sandra. Je voulais savoir, tu m'as montré tout à l'heure ton livre sur la Namibie. Peux-tu m'en parler un petit peu plus?
Bonjour Magali. Oui, tout à fait. Donc, je suis partie en Namibie pour une découverte du pays, mais surtout un apprentissage auprès de Catherine Joanne, que je salue, qui nous a présenter sa façon de voir et de vivre le voyage au travers de carnets de voyage en aquarelle. Donc là, c'est tout un domaine que j'ai découvert, puisque ce n'est pas du tout ma palette habituelle, parce que je suis en acrylique. Donc là, je me suis glissée dans la peau de l'élève pour apprendre à croquer sur le vif, chose que je ne suis pas habituée. Le sujet, le terrain, sur le terrain, on peut dire dans le terrain, parce qu'on est vraiment assis par terre, et les pieds et les mains dans la terre avec les autochtones et surtout des paysages à couper le souffle. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vivre les émotions et les transcrire sur le moment, et c'est quelque chose que je n'étais pas habituée, puisque moi j'ai plus l'habitude quand même de me poser dans mon atelier et de revivre les moments en fermant les yeux et transcrire plutôt mes émotions sur le moment passé. Donc c'est quelque chose de bien nouveau pour moi, mais que j'ai vraiment apprécié.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où tu es allée en Namibie exactement? Retracer pour nous le périple sur le plan géographique. Vous êtes arrivée dans quelle ville par avion d'abord?
Alors, on arrive à...
Vous êtes partie de Paris?
Oui, de Paris-Charles de Gaulle. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, ou presque pas de direct. Donc, on a fait une pause à Francfort pour redescendre après sur Windhoek, donc, qui est la capitale. Et une fois arrivés à Windhoek, nous avons découvert un peu tout autour, donc le bush. Et notre guide qui est en Namibie, qui est une Française, qui s'appelle Christine, que je salue, qui nous a accueillis avec son agence Trace et qui nous a fait découvrir son pays, puisqu'elle a pris la nationalité namibienne, nous a fait remonter tout au long de la Namibie pour arriver jusqu'en Caprivi. Donc nous avons fait plus de 700 km. Et tout au long de ces kilomètres, un paysage différent et une faune à chaque fois qui nous accueille. Et voilà, on est passé du bush avec très aride, avec des girafes, des rhinos, à une végétation luxuriante en Caprivi, où on se serait cru dans la jungle. Limite, j'aurais vu Tarzan passer au-dessus avec une liane, j'aurais cru. Voilà, c'est tout à fait un paysage, des contrastes énormes, où là, la faune, c'est... Les oiseaux à grande échelle, très sonores, avec hippopotames dans l'eau, crocodiles, enfin voilà, c'est pas du tout l'Afrique comme je m'étais mis, ni la Namibie comme je l'avais pensé, très verte. Moi je m'attendais à un pays sec et aride, et donc là c'était une belle découverte aussi, et une belle surprise, parce que quand je voyage, j'aime me laisser surprendre, je ne regarde rien du tout du tracé, je fais confiance, je mets ma vie entre les mains du guide, et c'est juste un bonheur quand on le vit comme ça, parce que tout est émerveillement et surprise, et ça c'est un beau cadeau.
D'accord, merci Sandra. Quelque chose à dire?
Alors, donc, tu as croqué des paysages et aussi des personnes sur le vif, c'est ça, dans tes dessins, dans tes aquarelles? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces dessins?
Oui, tout à fait. Donc, le carnet de voyage que vous allez pouvoir découvrir pendant cette exposition sera quand je serai présente. C'est un carnet vraiment sur le vif. Donc, effectivement, les personnes, moi, je suis pas très à l'aise au niveau dessin. Donc, vous allez me retrouver dans mon esprit, hein, où il y a vraiment une palette de couleurs et une intensité qui me correspond. Et puis, donc, au-delà de ce carnet, pendant l'exposition, vous allez pouvoir aussi découvrir des peintures que j'ai réalisées à mon retour. Bien sûr, toujours sur cette même thématique de voyage et de découverte des gens, de la population, des animaux, de la végétation. Mais pas que. Alors, on dit Namibie parce que c'est mon dernier voyage et que c'est celui qui me tient à cœur. Voilà, c'est le dernier. Mais pendant cette exposition, vous allez aussi pouvoir découvrir d'autres destinations telles que le Vietnam ou le Népal qui sont aussi qui m'ont énormément touchée aussi sur le moment. D'ailleurs, j'avais commencé c'est pour ça que je suis partie en Namibie faire ce carnet de voyage en apprentissage, parce que au Vietnam j'avais pris mon petit carnet de voyage, mais voilà, me manquaient tous les conseils merveilleux de Catherine, Joanne, qui m'ont aidée et qui m'ont fait prendre confiance en moi aussi, parce que c'est pas toujours évident de sortir son petit calepin dans la rue et puis avoir le bon matériel, les bons conseils et la bonne approche. J'ai beaucoup appris. Pendant cette exposition, vous allez pouvoir aussi... quand même, je vous montrerai ce petit carnet, vous allez pouvoir voir l'évolution. Donc ça, c'est chouette aussi. Et puis, donc, des peintures où là, en acrylique, ça retrace aussi d'autres moments forts dans d'autres destinations, d'autres pays.
Mais dis donc, je trouve que parfois, Sandra, tu es vraiment presque trop humble. Humble à outrance, on va dire, parce que tu nous dis qu'on t'a appris à faire un carnet de voyage. En fait, moi, je suis ta peinture depuis de nombreuses années, qui je trouve exceptionnelle. C'est pas un avis subjectif, c'est un avis objectif. Il y a vraiment des choses qui sont très belles. C'est très varié. Puis en plus, tu as une production qui est quand même assez prolifique. Et donc, quand on t'entend dire que tu savais pas faire un carnet de voyage, que rien que pour faire des petits dessins sur un carnet, c'était dur, quand même.
Alors, là où c'est dur, et c'est une réalité, c'est le support n'est pas le mien. Je ne suis pas habituée à un petit calepin. J'ai quand même l'habitude plutôt de travailler sur du grand format. Et puis, l'aquarelle, pour moi, est quelque chose une matière que je ne maîtrise pas. Donc, l'eau est un élément qui est vital pour produire cette technique. Et chez moi, en acrylique, je ne l'utilise presque pas. Donc c'est vraiment, il a fallu que je me fasse violence pour utiliser beaucoup d'eau. Catherine m'a beaucoup aidée, hein. Elle m'a carrément dit il faut y aller, il faut mettre le pchipchit plein d'eau, il faut asperger sa feuille. Donc c'est plein de choses que je ne savais pas. Donc oui, je suis sortie de ma zone de confort et ça fait du bien aussi, hein, ça fait du bien. Et je vais pouvoir transcrire ça et je le transmets aussi avec les élèves, les élèves, c'est pas le terme parce que je suis pas professeure, mais avec les enfants ou les adultes maintenant à l'heure d'aujourd'hui dans mon atelier, je le partage et ça c'est chouette. C'est toujours ma grande priorité, c'est je peins, oui, mais c'est pour partager mes connaissances et mon savoir. Alors c'est plutôt là c'est des techniques en l'occurrence que je ne maîtrisais pas et je vais pouvoir ça enrichit ma palette et c'est chouette quoi.
Alors justement, est-ce que tu peux nous dire de quelle technique il s'agissait?
Donc c'était vraiment technique aquarelle, pardon. Donc les petites palettes aquarelles, pareil, que je connais pas. Moi, j'ai l'habitude quand même d'avoir des grandes surfaces, encore une fois. Même les pinceaux, j'ai des gros pinceaux larges, des grands spalters. Là, je me retrouve avec des petits pinceaux tout fins, tout en finesse. Alors, j'ai pris plaisir, hein, je prends plaisir. Hein, mais voilà, c'est encore une fois, je sors de ma zone de confort et avec grand plaisir. Mais c'est quelque chose... Non, c'est pas être humble, c'est une réalité. J'ai galéré au démarrage, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, surtout que j'étais avec d'autres personnes... Pendant ce carnet, au gré de son pinceau, ce tour opérateur artistique avec d'autres personnes qui maîtrisaient leur sujet. Donc, c'est pas évident de se jeter à l'eau, c'est le cas de le dire.
D'accord.
Donc, tu parlais de faire un voyage, donc un voyage au Vietnam, au Népal et également en Namibie. Tu parles aussi de voyage intérieur. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces peintures de voyage intérieur ?
Oui, tu as raison de le préciser. Effectivement, le voyage intérieur, il est introspectif depuis toujours et c'est celui qui me fait du bien. Je suis venue à la peinture inconsciemment pour ce voyage intérieur et ce bienfait que ça peut me procurer, que ça soit dans transcrire des émotions, qui est pareil la base de ma peinture, que ça soit positif ou négatif, que ça soit de la colère, de la joie. C'est ce que je transcris depuis toujours inconsciemment dans ma peinture. Quand je dis depuis toujours, c'est que ça fait 30 ans. C'est pour ça que, alors je rebondis sur ça aussi, ça fait 30 ans que je peins mes émotions, et donc vous rajoutez ça à mon âge, donc c'est 50 nuances d'une globe trotteuse. Le titre de cette expo, c'est pas pour rien, c'est parce que justement c'est l'année de mes 50 ans. Donc voilà, donc j'ai choisi d'harmoniser et faire en symbiose toute cette palette derrière moi, qui fait que je suis aujourd'hui encore une grande enfant curieuse et qui me fait avancer un peu plus loin dans le voyage, d'aller au-delà de mon introspection. C'est vraiment aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres passionnés, comme j'ai pu faire la belle rencontre de tous ces artistes, cette guide passionnée de son pays. Enfin voilà, c'est tout ça qui me charme et que je vais tâcher de continuer sur cette lancée.
D'accord. Si vous permettez, on va se mettre un petit peu de musique. Alors c'est Sandra, l'invitée d'honneur. Qu'est-ce que tu voudrais comme musique, Sandra ?
Eh bien, peut-être une musique de Namibie. Je sais qu'ils ont des merveilleux chants que l'on peut trouver et écouter. Donc, nous avons été bercés par ces chants dans notre voiture avec notre guide et puis sur tous les arrêts. Il faut savoir que chaque destination que j'ai pu faire, la musique fait partie intégrale, du quotidien de ces personnes. Et voilà, ça berce à chaque fois nos pas tout au long de chacun des voyages. Donc là, ça va être plutôt la Namibie, un chant peut-être Bushman. Ils chantent très très bien. On a eu la chance de pouvoir aussi partager dans ces chants avec ces populations.
Donc, un chant Bushman de Namibie. Pour nos auditeurs, comme si vous partiez en Namibie tout de suite.
Beaucoup de fish qui gommet et ça.
This is Ungubi. He is a member of what most anthropologists consider the oldest human community on Earth, the Bassawara of Africa, otherwise known as the Bushmen of the Kalahari. For most of his life, he lived in an area of Botswana now known as the Central Kalahari Game Reserve, surviving in the same way his ancestors had done for thousands of years, by hunting and gathering. The Bushmen have very close ties to the desert. Hunting and gathering form the backbone of their culture. Ungubi used to roam freely across the borders of Botswana and Namibia, hunting wild game. But all that changed in 1997 when the Botswana government began installing fences to stop unauthorized border crossings. Ungubi explains to me how he was out hunting one day and wandered into Namibia. When he tried to return to Botswana, he was detained. Botswana border police demanded proof of citizenship before they would allow him back into the country. Ungubi had no papers. He has remained in Namibia ever since. His story is not unique. Since the mid-1990s, the Botswana government has been systematically moving the Bushmen out of their ancestral lands on the game reserve. The government says they are moving the Bushmen out for their own good. Government representatives say they want to provide services like healthcare and education, and claims that it is impossible to provide these services because the game reserve is too remote.
They are persuaded to relocate, but we do not have, Jeff, understand me to be saying, we do not have a specific policy which is directed at indigenous people. We do not officially regard them as an indigenous sector of our population.
And that lack of policy is part of the problem, according to the United Nations. Professor James Anaya traveled extensively through the Greater Kalahari Game Reserve on a fact-finding mission for the UN in 2009.
The problem is the development model is one which isn't entirely in sync with or consistent with the apparent aspirations of these people to maintain their own cultural identities. They've been moved off their traditional lands, where they historically, traditionally have been able to live from the resources of those lands according to their own ways of life and cultural patterns.
Because the Botswana government does not consider any people as indigenous, it says that the Bushmen have no legal claim on the land. Separated from his ancestral lands and no longer able to support his family, Ngubi felt his culture was dying. Then he had a vision. Ngubi's vision has led the family to perform at places like this market in Johannesburg, where I met them. He feels if he can go out into the world and share his music and dancing, people will understand the Bushman's problem, and his culture will be preserved. They are paid a small fee, but they can never leave the desert for very long. To better understand their situation, Ngubi says I must make the 1,500-kilometer journey back with them to Namibia.
Sandra, donc c'était des chants bushmen, donc c'est une rencontre avec ces gens.
Oui, une immersion dans leur vie et dans leur intimité, des gens généreux. Alors une toute petite population, je dis petite en taille parce que c'est des personnes toutes petites. Et j'ai fait beaucoup rire ma guide parce que quand nous avons été accueillis par un homme bushman, je pensais que c'était un ado, et elle me dit mais il est plus âgé que toi. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment une population toute petite, des enfants avec des toutes petites mains, des petits pieds. J'ai adoré cette rencontre magique, et c'est eux qui m'ont aidé à commencer ma première page de carnet de voyage, parce que je ne trouvais pas ma place. Alors pas qu'ils m'ont pas laissé de place, c'est toute seule, j'avais bien du mal à me lancer en fait, à utiliser mon carnet. Et du fait que les petits bushmen m'ont autorisé à peinturlurer leurs mains, leurs pieds, voilà, ça m'a lancé et ça m'a donné confiance en moi. Et voilà, c'était vraiment une chouette rencontre. Et je n'ai qu'une hâte, c'est retourner les voir.
C'est une rencontre magique, mais il y en a eu plein d'autres, parce que je suis en train de regarder un de tes tableaux, là je fonds, je suis tombée amoureuse de ce tableau, c'est l'oiseau de paradis. Je suis persuadée que tout le monde va se jeter dessus à l'exposition, parce qu'il va y être, je suppose.
Oui, il va y être, tout à fait, Noura. Cet oiseau du paradis, alors il nous a accompagnés en Caprivi, tout au long de la Caprivi, un oiseau, un tout petit oiseau très coloré.
Une très très longue queue.
Oui, c'est ça, une très longue queue.
Une traîne, quoi.
Oui, une traîne.
Le prince.
C'est vraiment un très princier avec des couleurs rousses et un œil turquoise, mais alors vraiment, un œil turquoise, c'est juste impressionnant, cette palette de couleurs. Alors on sait très bien que nous sommes que des pâles copieurs de la nature, mais alors là, ça nous le met en pleine figure.
Namibie, la Namibie, c'est le pays des grands parcs. Hein, on est d'accord, et c'est donc le pays des grands parcs, c'est un pays qui dispose d'un capital environnemental qui est relativement exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'expliquais tout à l'heure que les parcs sont de plus en plus chers, parce que bon, forcément, il faut bien que ce capital-là, ça leur rapporte quelque chose. Nous, à nous, Européens, ils nous rapportent tellement, sans qu'il y ait une véritable contrepartie, qu'il faut bien qu'ils en trouvent une ailleurs. Et ces oiseaux, j'ai vu beaucoup de photos, en dehors de l'oiseau du paradis, de ce fameux oiseau, il y en a plein d'autres, ils sont tous très colorés, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des oiseaux aussi colorés chez nous?
Oh, je pense qu'il y en a aussi, hein. On a des magnifiques martins pêcheurs, on a les petites demoiselles, je suis en train de chercher les petites mésanges, voilà, on a quand même des oiseaux très colorés.
J'ai vu des oiseaux oranges, grenades, oui. Comme tu disais, on dirait des nuages rouges qui volent dans l'air.
Oui, c'est vrai que c'est assez magique et c'est surtout très sonore. Et c'est en France, on a perdu un peu cette habitude d'entendre les oiseaux. Et c'est ce qui est captivant et c'est la première chose que l'on entend. Du coup, en arrivant en Caprivi, c'est vraiment cette bande sonore jour nuit. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je pensais que les oiseaux dormaient la nuit, pas en Caprivi apparemment, parce que c'est très 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 sonore. Et ça peut être des tout petits oiseaux très colorés, comme des grands échassiers. Donc c'est très très varié, très voilà, c'est assez intense et voilà, quand on aime la vie et qu'on aime les animaux, on est juste gâté dans cette belle partie de la Namibie.
Au niveau oiseaux.
En tout cas, parce qu'il y a plein d'autres animaux à découvrir partout sur ce beau continent.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux? Moi, dans tes photos et surtout dans tes dessins, j'ai vu des girafes.
Oui.
La rencontre, tu nous racontes? Parce que c'était quand même la première fois que tu rencontrais une girafe en quasi-liberté. Je suppose que tu en as déjà vu au zoo, ici chez nous, mais c'est quand même pas la même chose.
Alors, c'est pas quasi-liberté, c'est en toute liberté, puisqu'on est chez eux. Hein, on est à l'inverse des zoos en France. C'est nous qui sommes parqués pour nous protéger dans ces grands parcs comme celui des Tocha, où c'est une superficie immense, c'est un territoire. Hein, et c'est l'homme qui est parqué pour sa protection, sa survie. Et quand on a la chance de se lever le matin, ce qui fut mon cas, à 5 heures du matin, et de découvrir au loin, dans le bouche, des grandes jambes élancées. Et on se dit, on est encore en train de dormir ou on est réveillé? Et comme dans un rêve, il a fallu que j'aille réveiller ma voisine et lui dire, mais je crois qu'il y a une girafe. J'étais même pas sûre, tellement j'ai été impressionnée par cette grande demoiselle magnifique qui avance avec beaucoup de délicatesse et de sécurité, parce que c'est un animal qui a très peur, hein, qui est elle s'approchait tout près de nous, puisque l'homme a bien fait ça, hein, pour les observer en toute sécurité. On est près des points d'eau. On dort près des points d'eau et ça nous permet de pouvoir les observer en toute discrétion. Et alors, la discrétion, c'est pas facile quand on est surexcité et qu'on découvre une girafe pour la première fois. Il a fallu que j'arrive à contenir ma joie. Et on est comme les enfants, on a envie de sauter partout. Et c'est ce que j'ai un peu fait quand je suis allée réveiller ma voisine, mais parce que c'était à 4-5 heures du matin. Mais voilà,
c'était occasionnel ou tu te lèves tout le temps à cette heure-ci?
Je suis pas une bonne dormeuse, donc en Namibie encore moins, puisque on sait que l'on peut découvrir encore plus les gros animaux la nuit au point d'eau. Donc j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai vu beaucoup d'animaux.
Alors, qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai vu des hippopotames que tu as très bien dessinés d'ailleurs.
Alors les hippopotames, oui, en Caprivi, et puis donc cette partie toute verte, et puis ce que j'ai vu la nuit aussi et surtout, c'est les rhinocéros noirs qui étaient au point d'eau. Et ça, c'est pareil, c'est assez magique, parce que la nuit, il y a aucun bruit, aucun son, et il faut surtout pas en faire pour les apercevoir. Et on entend leurs pas sur les cailloux, et leur râle aussi, c'est juste impressionnant. J'ai été réveillée aussi en pleine nuit par un lion. Alors ma guide m'a tout de suite calmé mes grands espoirs de voir un lion la nuit, parce qu'elle m'a dit, tu sais, la nuit, comme la journée d'ailleurs, comme c'est le bush, il y a le son porte, et il peut être très très loin, et ce qui était le cas, je ne l'ai pas vu la nuit. Par contre, elle m'a dit, on a les chances d'en voir demain. Et nous avons eu la chance d'en voir le lendemain en plein jour.
D'accord. Parce qu'en fait, là où vous dormiez, c'était vraiment à proximité du point d'eau, ce qui fait que vous pouviez les voir facilement.
Oui, partout, en fait, l'homme a construit... Et les points d'eau, ça peut être soit naturel ou soit des points d'eau construits par les hommes. Et l'homme a construit des habitations. Alors, c'est pas des gros HLM, attention. Hein, c'est, quand je dis construit, c'est des petites habitations pour pouvoir observer ces animaux au plus près. Et à Etosha, on est vraiment enfermé dans un parc pour notre sécurité, parce qu'il y a vraiment tous les animaux sauvages, que ce soit les félins, que ce soit les rhinos, tous ces animaux qu'il faut préserver, mais en même temps faire attention. Donc pour nous, notre sécurité, on est enfermé dans un parc, donc c'est nous qui sommes aux zoos et pas l'inverse. Et ça, c'est juste magique quand on peut observer comme ça la vie, leur vie, leur quotidien. C'est magique. On a vu des dames girafes avec leurs girafons. Enfin, c'est juste...
Des zèbres aussi. J'ai vu des zèbres sur les photos. C'est magnifique, ces animaux-là.
Ah oui, oui, oui. Alors, les zèbres, c'est pareil. On a eu des troupeaux complets de zèbres. Et c'est pareil. C'est quand ils se mêlent entre eux pour se confondre, on ne sait plus où est la tête, où est l'arrière-train. Enfin, tout est confondu. Quand ils sont au point d'eau, c'est pareil. C'est magnifique. C'est un ensemble de noir et blanc magnifique.
Très bien. Donc après cette partie très verte, la Caprivi, vous êtes parti ailleurs?
En fait, nous avons commencé par le Bush et nous avons terminé par la Caprivi. Et ensuite, nous sommes redescendus. Voilà.
D'accord. Ok. Et donc, on a parlé des animaux et de la nature, mais j'y reviendrai après parce que je voulais parler des villes. Mais je viens de voir un serpent sur une de tes chaises. Et tu as vu un vrai serpent, un très très grand serpent que tu m'as dit qu'on appelle Black Mamba alors qu'il est tout blanc. Tu nous en dis un peu plus dessus? Ça doit être impressionnant de voir un serpent comme ça. Enfin, je sais que moi, personnellement, je suis à la fois fascinée, mais en même temps très effrayée par les serpents. C'est quelque chose que je saisis pas parce qu'ils fonctionnent pas comme nous, quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait de les voir en vrai? Je sais pas si tu as la même appréhension.
Alors, comme une grande enfant qui se met, voilà, j'ai réagi tout à fait pareil, très excitée à l'idée de voir un serpent. Alors, c'était un hasard aussi. On était tranquillement les fesses dans l'eau, dans la piscine, une petite piscine dans un lodge, et il y avait au-dessus de nous des branches qui craquaient. Et on a relevé la tête et on s'est rendu compte qu'il y avait un serpent dans l'arbre. Bon, alors notre guide n'était pas près de nous, donc elle nous a pas... voilà, on est juste très excités. On est sortis de l'eau, j'ai rechaussé mes lunettes, mon appareil photo, et je l'ai pris en photo. Et bon, il s'est avéré que... Non, il n'est pas blanc, c'était un black mamba. C'est un peu vert acidulé, plutôt un black mamba. Et je ne savais pas sa dangerosité. C'est notre guide en arrivant qui m'a fait observer dans l'appareil photo sa tête. Et il est très, très reconnaissable à son grand sourire. Donc voilà, donc il a une large bouche qui traverse sa tête, et elle l'a reconnue tout de suite. Elle nous a fait sortir de l'eau parce que le black mamba est censé être par terre la plupart du temps, et là il était en l'air et il risquait de nous tomber dessus en fait. Donc elle nous a fait vite sortir de l'eau, mais je suis restée fascinée. Alors je pense que c'est pas la peur qui m'a, c'est surtout la fascination de cet animal, que voilà, chez nous un black mamba aussi grand, en plus ils font jusqu'à 3-4 mètres de long, et là il était dans un arbre perché, enfin c'était impressionnant quoi. C'est...
Oui, et puis si vous étiez tombé dessus, ça pouvait être dangereux parce que c'est des serpents qui mordent, qui sont venimeux.
Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça qu'elle nous a fait sortir de l'eau, parce qu'en un quart d'heure de temps on peut mourir si on n'a pas un antivenin sous la main, et ce qui était le cas puisque il n'y avait pas d'hôpitaux proche du lieu où on était. On était à circuler, donc voilà, donc elle nous a fait reculer du serpent.
C'est sûr. D'autres rencontres exceptionnelles dans ces grands parcs?
Un rhinocéros blanc aussi, qu'on a pu apercevoir et que j'ai croqué, enfin que j'ai peint à mon retour. Et puis un guépard, alors ça c'est juste une folie aussi. On a eu la chance de pouvoir assister au festin d'un guépard en direct. Donc ça... juste exceptionnel aussi, et on a le couple soufflé quand on assiste à ça. On est assis, on ne bouge plus dans la voiture.
Souffle coupé, parce que ça dit le couple soufflé.
Tout à fait, le souffle coupé, j'y arrivais. Tout à fait, voilà, c'est exactement ça, c'est le souffle coupé. On ne peut plus parler, on est juste impressionnés et soufflés par ce spectacle, en fait.
Oui, bah oui, c'est vrai, c'est comme dans le film La Panthère Blanche.
Oui, La Panthère des Neiges de Vincent Minier, c'est exactement oui. Ça. On se sent tellement privilégié de ce spectacle que, voilà, on est un observateur, on essaye de se faire le plus discret possible pour pas qu'ils sentent notre présence et pouvoir le laisser en paix et ne pas le déranger dans son festin, en fait. Hein. Donc, on a eu la chance aussi de voir d'autres félins. On a vu des lionnes avec leurs lionceaux jouer. On a croqué, on a pu dessiner ces spectacles-là aussi et prendre en photo. Enfin, voilà, il y a au-delà, voilà, pendant l'exposition, il y aura aussi cet album photo que j'ai pu concevoir avec l'aide de mon amie aussi, Corinne, qui est ma collègue de voyage et amie de voyage. Voilà, donc elle m'a aussi mis en image par la photo pour regrouper tout ce voyage, se faire un condensé d'images. Et voilà, c'est juste sublime.
D'accord. Et après, il y a aussi les villes qui sont intéressantes.
Alors, ville, moi j'ai un peu plus de mal. Alors, Window qu'on a atterri, mais c'est moins parlant pour moi. Après, c'est vraiment plutôt les populations. On a pu rencontrer les populations en Caprivie où vraiment les gens travaillent encore leur terre et ils fabriquent leur propre maison, leur petite hutte. C'est des maisons, c'est des huttes. Hein. Voilà, Caprivie, on a vraiment, pour moi, c'était la façon de vivre de la population. Après, Window reste une ville qui est en plein développement et qui m'intéresse moi. C'est pas ça que je vais rechercher. Je vais rechercher l'authenticité. Et la majorité des gens ne vivent pas en ville et se retrouvent pas dans cette façon de vivre. J'ai pu rencontrer des Himba en plein centre-ville. C'est très contrasté et très improbable, en fait, parce que c'est pas leur lieu de vie. Elles viennent vendre leur création artistique et artisanale, mais c'est pas leur lieu de vie. Donc, je suis moins touchée par la ville. Je suis touchée par les gens qui viennent, comme les Himba, qui sont pas de cette ville-là, mais voilà, qui viennent. C'est eux qui me touchent.
Et tu as gardé des contacts avec certains pour continuer à discuter? Ce sont des gens qui ont des téléphones portables, qui regardent Internet?
Non, alors on a encore... Alors, les Himba, je ne sais pas leur langage. Après, je sais que les Bushman ont un langage de clic, donc ils cliquent la langue. Donc, non, il n'y a pas possibilité d'échanger, mais justement, le carnet de voyage, comme on s'assoit par terre à leur hauteur, et puis on partage vraiment ce moment avec eux. Moi, j'ai partagé avec les enfants, Bushman, et en peinture. Et du coup, c'est un autre partage que le langage, c'est la couleur, et c'est exactement ce que j'aime. C'est un échange autre que les mots Voilà, c'est vraiment par le sens artistique. Les enfants ont croqué dans les carnets de Catherine des dessins, ou d'autres populations dans les villages ont croqué avec nous dans nos carnets. Et c'est un échange autre que la langue. Et ça, c'est juste sympa de pouvoir faire ça. Et on était vraiment en immersion avec eux. Donc, notre guide, alors elle ne parle pas le langage des Bushman ou des Himba, mais anglais, c'est quand même... Alors, ces populations, même les Bushman, on trouve chez les jeunes des jeunes qui parlent anglais. Et ça m'a assez bluffé, parce que je me dis, moi, à 50 ans, je parle trois mots d'anglais. Et je me suis dit, au fin fond de la Namibie, parlent anglais. Donc, ils apprennent l'anglais pour pouvoir communiquer. Et du coup, notre guide a beaucoup, facilement échangé avec eux et créé des liens avec eux. C'est pour ça qu'on peut aller à leur rencontre. C'est pour ça qu'en mai, je retourne en immersion avec cette guide formidable qui est Christine de l'agence Trace, parce qu'elle nous fait voir découvrir son pays et sa population en toute intimité et en petit groupe restreint. Voilà, et c'est autre chose, c'est pas le tourisme de masse.
Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Puis c'est un voyage qui a une thématique et un but, puisque le but, c'était de réaliser un carnet de voyage, quoi. Et tu as regardé les carnets de voyage des autres?
Oui, ils étaient bien, bien mieux réalisés que les...
Oh, c'est pas vrai.
Non, on a tous notre entité, heureusement, et nos domaines de prédilection. Moi, par la couleur, d'autres par le dessin, d'autres... Voilà, Catherine, qui est une habituée des carnets de voyage, sait enrichir son carnet de tout ce qu'elle peut trouver sur le terrain. Ça, j'adore, parce que moi, ça, je sais faire à la maison. Mais en voyage, je n'étais pas habituée. Et elle m'a aidée et guidée dans cette direction. Et ça, c'est chouette. Et on a tous... Gérard par le dessin, voilà, on a, j'ai Anne, voilà, qui a sa façon aussi de voir les choses et de croquer les personnes, les portraits, voilà, j'ai rencontré des artistes qui font des portraits magnifiques. Moi, je sais pas mon domaine, mais je suis très admirative et c'est chouette. J'aimerais pouvoir, voilà, continuer à l'avenir de pouvoir travailler sur place. C'est ce que je vais travailler dans ce sens-là, en tout cas.
D'accord. Et je me suis laissé dire, et c'est toi qui m'en as parlé, que tu allais y retourner en Namibie.
Oui, donc là, j'y retourne en immersion dans les tribus avec notre guide en mai. Et puis là, je me glisse dans la peau du professeur en fin d'année pour amener ma technique et ma façon de peindre, c'est-à-dire peindre avec le cœur et pas forcément sur le moment et sur le vif, mais peut-être poser plus tranquillement et le jour même, hein, mais... prendre le temps de s'émerveiller sur place et ensuite de le digérer, de fermer les yeux et presque peindre les yeux fermés, mais avec son cœur et voilà, et ses émotions de la journée en fait.
L'Afrique, c'est grand. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'aller 3 fois de suite en Namibie en 2 ans alors que il y a plein d'autres pays africains à visiter? Est-ce que tu as l'intention de les visiter aussi?
Oui, tout à fait. J'aimerais. Alors, j'espère que je vais avoir assez de temps dans ma vie et, voilà, et pouvoir trouver le financement. Donc, je peins justement pour ça, hein, pour partager et puis aussi pouvoir financer mes autres voyages et puis mes autres envies de découverte. Donc, l'Afrique, il y a la partie Kenya, la partie Zanzibar, toutes ces parties-là qui me plaisent aussi. Mais effectivement, l'Afrique est tellement un continent.
Le Burkina Faso, ça doit être très beau aussi. Le Mali aussi.
Là, l'Égypte aussi. Enfin, il y a tellement de facettes en Afrique, et c'est tellement un continent gigantesque. Et puis c'est la base de tout, c'est la base de l'être humain. Enfin, c'est nos premières traces. Donc c'est vrai que je retourne 3 fois en Namibie parce que ça se présente. Enfin ouais, ça sera ma seconde et j'y retournerai une 3e fois donc dans cette année. Mais oui, parce que j'ai envie de faire le tour parce que cette personne, cette guide Christine m'en a donné envie, Catherine, les participants. Enfin. La population, là, ça m'a vraiment donné envie de faire le tour, peut-être plus profondément. Et puis, ça se présente comme ça aussi, parce que professionnellement, je peux voilà, venir mettre en place un vrai échange sur place. Et puis, peut-être, et j'espère, emmener des Chalonnais et plus loin, donner envie, peut-être. Juste.
Pourquoi pas créer un club de Chalonnais qui peignent en Afrique?
Pas forcément Chalonnais, puisque Anne est
de Marnay.
Voilà, alors Anne est belge, mais elle vit dans le sud, à Saint-Raphaël. Après, Gérard est de Paris. J'ai eu Brigitte qui est des Ardennes. Voilà, donc, ça peut être des gens de partout, mais j'espère pouvoir donner envie par ces partages radio, ces partages d'expos, ces partages d'ateliers, donner envie de nous accompagner, d'apprendre, de découvrir. Voilà, j'espère que ça va stimuler. Voilà, après, oui, bien sûr que si je peux faire d'autres carnets de voyage ou d'autres formes de découverte artistique et de partage artistique dans d'autres pays, oui, je rêve de ça maintenant, tout à fait. C'est vraiment nouveau pour moi, c'est vraiment la première année, mais c'est vrai que c'est une direction que j'ai envie de prendre, oui, tout à fait.
Très bien. Et si, alors, à part les voyages, est-ce que tu as d'autres projets peinture pour d'ici la fin de l'année?
Alors là, je lance un appel parce que j'aimerais effectivement exposer sur Reims, qui est tout près de chez moi. Je suis à 35 minutes. Donc j'aimerais bien effectivement faire partager aussi Aurémois ma passion et mon rêve de voyage en couleur. Donc c'est vraiment... moi, j'aimerais faire découvrir Aurémois après, pourquoi pas une autre ville, hein, si j'ai des auditeurs qui m'entendent et des personnes responsables de centres culturels plus loin. J'ai aussi, c'est encore pas fait, mais je devrais être aussi sur la côte atlantique au mois de fin juillet, début août. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place aussi, mais j'en dirai un peu plus quand ça sera fixé. Mais normalement, je devrais aussi pouvoir exposer sur la côte atlantique. Ouais.
Très bien. Eh bien, en Bretagne plutôt ou...
Non, plus en bas, je suis en train de chercher la ville, ça ne me revient pas.
Nantes
Non, un peu plus bas.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est bien parce que tu passes de Châlons à la Bretagne et entre l'Est, quelque part, il y a l'Est qui a une région de caractère et l'Ouest avec la Bretagne s'entend très bien. Oui, à Royan.
Voilà.
D'accord. Ok. Très bien, Sandra. Bon, bah, écoute, je te remercie. Je chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous aurons certainement d'autres émissions avec Sandra. On va suivre un peu ce qu'elle fait. Sandra, je te souhaite une très très belle expo, puis des beaux voyages en Namibie et une bonne continuation. Et à très bientôt.
Merci, Noura. À très bientôt.